Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être donc venu assister à cette rencontre qui clôt cette première journée d'hommage rendue à Francis Ponge par la ville de Montpellier. Une journée qui a débuté par le dévoilement et l'inauguration d'une plaque au 3 Place Chabanneau, le lieu où en fait naquit Francis Ponge le 27 mars 1899. Une journée marquée aussi par le don généreux et très précieux que Madame Armande Ponge a fait de 60 ouvrages de son père à la ville de Montpellier. De cela et de votre présence parmi nous ce soir, Madame, je tenais tout d'abord à vous remercier. Merci à notre invité de ce soir. Merci Gérard Farras d'être venu, d'avoir accepté de venir partager avec nous votre goût, votre passion et votre connaissance très intime de cette œuvre. Je vais vous présenter en quelques mots. Vous êtes écrivain, professeur de littérature française à l'Université du Littoral Côte d'Opale de Dunkerque. Vous êtes l'auteur de plusieurs recueils de prose brève, dont deux ont paru ces dernières années aux éditions du Temps qu'il fait. Je vais citer leurs titres, Belle de Cadix et d'ailleurs, ainsi que Pour vos beaux yeux. Vous avez participé à l'élaboration des œuvres complètes de Francis Ponge, qui ont paru en deux volumes dans la bibliothèque de la Pléiade, chez Gallimard. Et parmi les nombreux ouvrages et articles que vous avez consacrés au poète, je tiens à signaler à l'assistance, s'il ne l'a déjà lu, le très beau bel essai qui s'appelle « L'âne musicien » sur Francis Ponge, paru chez Gallimard, ainsi que votre très éclairant guide d'un petit voyage dans l'œuvre de Francis Ponge. C'est bien ça ?
Guide d'un petit voyage dans l'œuvre de Francis Ponge, écrit avec mon ami Bernard Feck.
Et qui est paru aux presses universitaires du Septentrion. Alors, avant de vous laisser la parole, avant aussi d'écouter Hylaine Grange de la Compagnie de l'Âtre qui va nous lire un premier texte, j'aimerais tout d'abord préciser deux choses, un paradoxe et une difficulté. Paradoxe, en effet, et qui touche au sens de notre présence ici ce soir, du moins à ce qui en est le prétexte, que la naissance à Montpellier du fils d'un Nîmois et d'une Nîmoise, et qui n'a fait qu'y naître dans un premier temps, puisque très vite il a quitté Montpellier avec sa famille, au bout d'un mois, pour rejoindre Nîmes, puis s'installer en Avignon, et enfin découvrir Caen, ville de Malherbe, à laquelle bien des années plus tard il consacrera un ouvrage très important. Finalement, en cela, c'est le moins étroitement montpelliérain de tous les écrivains de Montpellier, puisqu'il fut ouvert dès son plus jeune âge à des influences contrastées, diverses, qui ont contribué à forger ce caractère et ce goût unique. Mais peut-être peut-on quand même conclure qu'en cela, il a finalement été étonnamment fidèle à l'esprit et au destin de sa ville de naissance. Et puis, je parlais de difficultés. Difficulté, oui, parce qu'il est délicat de parler correctement de l'œuvre de Francis Ponge. Vous-même, vous l'avez écrit dans vos ouvrages, vous avez signalé cette difficulté. On verra bien à la lecture, en écoutant les lectures qui vont être faites, et ce sera sans doute plus audible que dans mon propos, à quel point nous sommes avec l'œuvre de Ponge en présence de textes qui disent déjà exactement et très parfaitement ce qu'ils avaient mission de dire, et qui vont même jusqu'à montrer très souvent, très précisément, comment ce qui a été écrit a pu l'être, à signaler les conditions de l'écriture. Nul autre monde extérieur, nulle autre signification cachée à découvrir chez Ponge, et c'est pour ça qu'il est très difficile de le commenter, on risque très vite de tomber dans la paraphrase. Alors peut-être est-ce pour cela que, parmi les meilleures pages qui ont été écrites sur Ponge, nous en devons de très très nombreuses à des écrivains eux-mêmes, des écrivains qui ont su écrire non seulement sur Ponge, mais surtout à partir de son œuvre, ainsi de votre âne musicien, Gérard Farras. Et c'est à mon avis la vraie raison de votre présence ce soir parmi nous. Alors avant que Hylaine Grange nous lise le texte, j'aimerais simplement vous laisser la parole et vous demander de nous dire quelle fut votre première rencontre avec l'œuvre de Francis Ponge et qu'est-ce qui, la première surprise, la première stupeur passée, vous a retenu, vous a convoqué, vous a happé? Merci.
Je crois que précisément c'est la stupeur, c'est le fait que je ne comprenais pas du tout que les textes aujourd'hui me sont limpides, me paraissent vraiment clairs. Au premier abord, quand j'ai lu le parti pris des choses, je n'y ai rien compris du tout. Je me suis dit, mais quel sens ça a d'écrire sur les pluies? Quel sens ça a d'écrire sur le galet? Et cette perplexité m'a incité à continuer ma lecture. Je me suis dit, c'est pas possible de rester sans comprendre comme ça. Il faut tout lire. Et quand on lit tout, peu à peu, les choses se mettent en place. Et comme vous l'avez dit vous-même, les clés de Ponge sont dans Ponge. On trouve l'explication de Ponge par Francis Ponge quasiment à chaque ligne. D'où cette difficulté à se placer en tant que commentateur, puisque d'une certaine façon, Ponge a tout dit sur ses propres textes. Bon, il faut essayer de se dégager un peu sur le côté, trouver un angle d'approche, montrer comment la critique et le texte s'articulent, parce qu'ils s'articulent dans l'œuvre de Ponge d'une façon très très particulière. Par exemple, si vous prenez un texte comme Le Lézard, on a d'abord une évocation du lézard, ensuite on passe à une évocation du mot lézard, et quand Ponge décrit le mot lézard, il utilise les termes, les formulations qu'il a utilisées déjà pour décrire le lézard, si bien que l'objet finit par décrire le texte lui-même. Ce n'est plus le texte qui décrit l'objet, mais c'est l'objet qui vient en retour décrire le texte. Donc il faut quand même l'expliquer, il faut déplier Ponge, il faut développer un peu ce qu'il dit. Il y a des... C'est une écriture très très serrée aussi, très très dense, et donc entre les phrases il y a des blancs, et ces blancs on peut peut-être essayer de les remplir, on peut peut-être aussi dans les marges ajouter des petits sourds. Alors est-ce qu'on écrit à partir de Ponge? Je crois qu'il y a... Ponge, aujourd'hui, est un écrivain qu'on ne peut pas éviter, que tout jeune auteur doit avoir lu pour pouvoir écrire, parce que c'est une œuvre qui compte. Et il y a un certain nombre de... Enfin, beaucoup de poètes d'aujourd'hui qui écrivent... Je ne sais pas si on doit dire à partir de Ponge, mais après avoir lu Ponge, en tout cas, soit qu'il se situe dans une certaine lecture de Ponge, dans une certaine continuité de son œuvre, soit au contraire qu'il s'y oppose, parce qu'évidemment il y a des résistances à Ponge. Hein. C'est une œuvre qui a mis très longtemps à s'imposer. Enfin, c'est toute une vie d'écriture, hein. c'est tout un travail. Le couronnement, d'une certaine façon, c'est la publication dans ces volumes de la Pléiade. Mais je crois que jusqu'au dernier moment, jusque dans les années 70, on pouvait se demander si Ponge allait réussir à s'imposer. Parce qu'il est dans une tradition d'écriture qui est une tradition de rupture. Il est dans une tradition d'écriture qui... ne correspond pas du tout à l'image qu'on peut se faire de la poésie, notamment à l'image qui est diffusée par le lycée. Et donc il prend la poésie à rebrousse-poil, et on en est déconcerté, je le disais tout à l'heure. Et il faut donc se familiariser avec cette œuvre.
Je vous propose maintenant d'écouter Hylaine Grange, un texte qui s'appelle « Des raisons d'écrire ».
Qu'on s'en persuade, il nous a bien fallu quelques raisons impérieuses pour devenir ou pour rester poète. Notre premier mobile fut sans doute le dégoût de ce qu'on nous oblige à penser et à dire, de ce à quoi notre nature d'homme nous force à prendre part. Honteux de l'arrangement tel qu'il est des choses, honteux de tous ces grossiers camions qui passent en nous, de ces usines, manufactures, magasins, théâtres, monuments publics qui constituent bien plus que le décor de notre vie, honteux de cette agitation sordide des hommes non seulement autour de nous. Nous avons observé que la nature, autrement puissante que les hommes, fait 10 fois moins de bruit et que la nature dans l'homme, je veux dire la raison, n'en fait pas du tout. Eh bien, ne serait-ce qu'à nous-mêmes, nous voulons faire entendre la voix d'un homme. Dans le silence, certes, nous l'entendons, mais dans les paroles, nous la cherchons, ce n'est plus rien. C'est des paroles. Même pas paroles sont paroles. Ô homme, informe mollusque, foule qui sort dans les rues, millions de fourmis que les pieds du temps écrasent, vous n'avez pour demeure que la vapeur commune de votre véritable sang, les paroles. Votre rumination vous écœure, votre respiration vous étouffe. Votre personnalité et vos expressions se mangent entre elles. Telle parole, telle mœurs, sociétés, tout n'est que parole. N'en déplaise aux paroles elles-mêmes. Étant donné les habitudes que dans tant de bouches infectes elles ont contractées, il faut un certain courage pour se décider non seulement à écrire, mais même à parler. Un tas de vieux chiffons pas à prendre avec des pincettes, voilà ce qu'on nous offre à remuer, à secouer, à changer de place, dans l'espoir secret que nous nous tairons. Eh bien, relevons le défi. Pourquoi, tout bien considéré, un homme de telle sorte doit-il parler ? Pourquoi les meilleurs, quoi qu'on en dise, ne sont pas ceux qui ont décidé de se taire ? Voilà ce que je veux dire. Je ne parle qu'à ceux qui se taisent, un travail de suscitation, quitte à les juger ensuite sur leurs paroles. Mais si cela même n'avait pas été dit, on aurait pu me croire solidaire d'un pareil ordre de choses. Cela ne m'importerait guère si je ne savais par expérience que je risquerais ainsi de le devenir. Qu'il faut à chaque instant se secouer de la suie des paroles. Et que le silence est aussi dangereux dans cet ordre de valeur que possible. Une seule issue, parler contre les paroles. Les entraîner avec soi dans la honte, où elles nous conduisent, de telle sorte qu'elles s'y défigurent. Il n'y a point d'autre raison d'écrire. Mais aussitôt conçue, celle-ci est absolument déterminante et combinatoire. On ne peut plus y échapper que par une lâcheté rabaissante qui n'est pas de mon goût de tolérer.
Merci. Difficile de reprendre la parole justement après cette violente charge contre l'ordre des paroles. Alors que dire, peut-être d'abord situer le texte. Il a été écrit, il me semble, entre 1929 et 1930. Il est situé dans le recueil Proème, qui a eu une genèse, une histoire éditoriale très compliquée. Alors, ce qu'on entend au tout début, c'est cette déclaration qu'à l'origine de l'acte poétique. Peut-on parler d'ailleurs de poétique quand on sait la distance, la méfiance qu'avait, la défiance qu'avait Francis Ponge vis-à-vis de l'appellation de poète. En tout cas, on entend qu'à l'origine de cet acte poétique, il y a le dégoût, il y a la honte, il y a le refus de ce qu'il appelle à un moment l'ordre des choses, qui est aussi bien l'ordre social, je suppose, que l'ordre du langage, l'ordre des paroles, que ce soit peut-être le langage courant, le langage commun, mais aussi le langage qui s'exprime dans une certaine littérature. On est très loin, là, Gérard Farras, d'une conception, disons, romantique de l'écriture, avec son poète prophète, avec une confiance irraisonnée dans les pouvoirs de la parole et dans leur bienveillance. Comment se situe Ponge au début? Là, il est au début de sa carrière poétique vis-à-vis de la tradition littéraire et des poètes de son temps.
Je crois qu'il se situe comme beaucoup de gens de sa génération, les surréalistes en particulier, et qu'ils sont animés, Ponge et André Breton, d'autres également, par un dégoût profond contre les sociétés entièrement mercantiles, les sociétés capitalistes, les rapports sociaux, etc. Et une violence de ce texte qui est une violence politique. Mais la politique pour Ponge, le politique, le lieu du politique, c'est précisément le langage, c'est la langue. Ponge a le sentiment que la langue a été souillée, a été salie, et il le dit dans le texte, l'homme n'arrive plus à s'exprimer dans cette langue. Bon, pour trouver des équivalents aujourd'hui, on dira que cette langue qu'il condamne, c'est la langue de la publicité, c'est la langue de la politique, la langue de bois, hein, la langue toute faite, où personne ne parle. C'est une sorte de on anonyme où chacun répète les mêmes choses et plonge dans un mouvement de ressaisissement, s'attaque donc très, très violemment à cette langue qui est une langue qui ne permet pas à l'homme de s'épanouir. Et il veut donc, il le dit, apprendre à chacun à fonder sa propre rhétorique, c'est-à-dire l'art de parler par soi-même et l'art de penser par soi-même. Il faut, enfin je crois que pour bien comprendre la position de Ponge à l'égard du langage, il faut penser que pour lui, la langue, c'est la sécrétion du mollusque homme, hein, c'est dans la langue que nous baignons, hein, dans un univers symbolique. Et si on veut modifier quelque chose dans la pensée, il faut d'abord modifier la langue. Si on veut modifier quelque chose dans les rapports humains, il faut modifier la langue, la pensée, les rapports humains, le système économique, le système politique. Il y a tout un enchaînement comme ça de choses qui se déterminent, qui s'emboîtent, mais au centre de tout cela, il y a cette langue. Et Ponge, par exemple, n'écrit pas de texte politique, enfin, ou rarement, mais tous ces textes, on peut dire, sont des textes politiques. Pour lui, le niveau politique du texte, c'est dans quelle mesure je vais transformer la pensée humaine et les rapports humains en transformant les formes du langage. Transformer les formes du langage, transformer les genres littéraires, c'est aider la pensée à progresser, et par conséquent, c'est améliorer la société, c'est susciter l'homme, dit-il. Je suis un suscitateur, a-t-il dit.
Alors on voit très bien à ce qu'il s'oppose à cette époque et ce qu'il dénonce. Quelles ont été, pour vraiment partir du début, les lectures importantes, les influences importantes de Ponge dans son apprentissage poétique, avant qu'on en vienne à sa poésie et sa création en elle-même.
Alors, il y a d'abord ceux qui le détestent, peut-être, les symbolistes, les romantiques. Donc ce sont des poètes qui ne trouvent pas grâce à ses yeux. Et fondamentalement, les auteurs qu'il admire sont des auteurs latins, il le dit lui-même. C'est Lucrèce en particulier, le De Natura Rerum, le grand poème scientifique de Lucrèce, c'est Horace. Ensuite, parmi les Français, il y aurait évidemment Malherbe avec ce livre extraordinaire, Pour un Malherbe, qui renverse complètement l'opinion qu'on peut avoir de Malherbe, puisque l'opinion des... en général des professeurs, enfin c'est ce que dit Ponge, à l'égard de Malherbe, est une opinion assez péjorative. Malherbe est un poète prosaïque, un poète du bon sens, de la raison, etc. Et tout cela, parce que le romantisme est passé là-dessus, tout ça est dévalué et dévalorisé. Et Ponge va se constituer son panthéon littéraire. Il y a évidemment aussi, bon, en dehors de Malherbe, il y a La Fontaine. Ponge admire beaucoup La Fontaine, et les textes du Parti pris des choses peuvent être considérés comme des fables où les choses ont remplacé en quelque sorte les animaux. Et il aime la langue de La Fontaine et les œuvres de La Fontaine parce que ce sont des œuvres brèves, parce que ce sont des œuvres où chaque mot compte. Hein, il admire... Le lion et le rat, hein, une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Il trouve qu'on ne peut pas dire autant de choses en si peu de mots, sauf si on est La Fontaine. Donc, ensuite, il y a parmi les gens du XIXe siècle, il y a évidemment Rimbaud, il y a Mallarmé. En 1926, par exemple, il écrit un texte sur Mallarmé. Et il y a bien évidemment aussi Lautréamont. Mais c'est pas le même Lautréamont que le Lautréamont des surréalistes. Le Lautréamont des surréalistes, c'est celui des Chants de Maldoror. Le Lautréamont de Ponce, c'est plutôt celui des poésies. Donc, Ponce a tendance à considérer que les chants de Maldoror de Lautréamont sont une parodie du romantisme, c'est-à-dire le romantisme poussé à l'excès pour qu'il soit détruit. Je ne sais pas, je ne crois pas avoir fait le tour de tous les écrivains admirés par Ponce, je sais s'il y en a, mais je crois avoir évoqué les principaux.
Vous parlez
Tacite également, oui.
Alors vous parliez d'une certaine proximité avec les surréalistes, cependant on voit que dans ce texte, on peut voir une certaine prise de distance aussi avec cette insistance sur la raison qui dans les années 29 et 30 chez les surréalistes n'était pas vraiment mise à l'honneur ou en tout cas prônée comme une valeur d'importance. On aurait du mal à la nature dans l'homme, je veux dire la raison, c'est une phrase qui est difficilement imaginable pour certains.
Non, moi j'ai essayé d'évoquer un esprit d'époque qui est finalement l'esprit de...
Il a fréquenté les surréalistes, mais il s'en est quand même très vite éloigné.
Mais il s'est rapproché des surréalistes à l'époque du second cadavre, hein, c'est-à-dire au moment où André Breton était... violemment attaqué par ses anciens amis surréalistes et donc qui ont écrit notamment sous l'inspiration de Georges Bataille qui pour des raisons politiques puisque la scission cette scission a eu lieu pour des raisons politiques, on va pas entrer dans ces détails. Il a été, révolté par le fait que la presse bourgeoise, il le dit lui-même, se réjouissait de la fin du surréalisme. Et donc, il a écrit à ce moment-là à André Breton pour lui dire qu'il pouvait compter sur lui et qu'il était de leur côté. Mais précise-t-il, pour des raisons morales plus qu'esthétiques. Mmh. Parce que l'esthétique de Ponce et l'esthétique surréaliste sont des esthétiques tout à fait à l'opposé. Il n'y a pas du tout de glorification de l'imaginaire et du rêve chez Ponce. Il n'y a pas du tout de glorification de l'écriture automatique. C'est plutôt le contraire. Il y a une certaine méfiance vis-à-vis de la psychanalyse et de la notion d'inconscience qu'il n'y a pas du tout chez les surréalistes. Donc il y a vraiment des divergences profondes entre les hommes, entre les esthétiques. Il y a des rapprochements d'état d'esprit parfois pour des raisons politiques. Et puis il y a le fait que Ponge considère que les surréalistes, globalement, avec du recul, il le dit dans Pour un Malherbe, ont apporté quelque chose de nouveau, ont fait circuler un vent d'air frais dans la littérature. Donc il y a un jugement extrêmement nuancé sur les surréalistes. Et bon, c'est un peu difficile d'en parler comme ça oralement. On risque de créer des malentendus. Mais oui, l'esthétique de Ponge est tout à fait différente. Ponge a fait une découverte en 1926, à un moment difficile de sa vie, c'est que l'écriture de petits textes descriptifs, le coquelicot, l'herbe, par exemple, cette écriture, lui fait du bien. C'est une sorte de thérapie, l'écriture de ces textes. C'est une façon de retrouver la parole, de pouvoir parler originalement, parce que si vous parlez du Galet, hein, personne n'en a jamais rien dit, donc vous allez pouvoir en dire des choses intéressantes. Le point de départ, le centre de l'œuvre de Ponce, c'est cette rencontre avec l'objet. C'est l'idée qu'il faut s'affronter au monde muet. L'homme lui-même est muet. Hein, les objets sont muets, mais l'homme est muet. Et pour réapprendre à parler, il faut essayer de parler les objets muets.
Oui, car il faut préciser que Francis Ponge a connu une période d'aphasie, compliquée, un moment où il perdait parole devant les jurys, à l'oraux des examens, mais surtout plus précisément que même dans l'écriture, voilà, il y avait une période d'aphasie, de trouble du langage profond qui détermine ensuite sa rencontre avec les objets.
Je crois que la période qui précède 1926, c'est une période où Ponge est extrêmement préoccupé par des problèmes de langage, où il invente un genre nouveau qu'il appelle fable logique, c'est-à-dire des fables qui portent sur les mots eux-mêmes. Il y a aussi le fait que son ambition, c'est d'écrire une œuvre absolue, comme est celle de Mallarmé. Mallarmé est un de ses modèles. Et c'est sûr que si on a un idéal aussi grand, on risque de se nouer la gorge et de ne plus pouvoir parler. Je crois qu'il y a ça. Et le fait de faire de petites descriptions d'objets simples montre qu'on peut parler. Sans doute on n'arrive pas à une œuvre absolue, mais on arrive, dit Ponge, à des succès relatifs, et peut-être la sagesse consiste-t-elle à se contenter de ces succès relatifs.
Alors on voit que ce dégoût, cette honte détermine chez le poète une position éthique, politique, on pourrait même dire une position civique, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et c'était intéressant de commencer par ce premier texte parce qu'on est finalement très loin de l'image d'Épinal ou de l'image scolaire d'un Francis Ponge qui serait un ciseleur de petits bibelots sonores, parfaits, de très fermés, etc. Dans la vie de Francis Ponge d'ailleurs, à cette époque-là, la politique joue un rôle important, non négligeable. On n'en connaît pas grand-chose, d'ailleurs. Vous pouvez nous en dire deux, trois mots.
Tout à l'heure, on avait prononcé le mot d'engagement, et je crois que ce qui caractérise Ponge, c'est un engagement absolu dans la littérature. Et, pour lui, toute parole compte. Hein, toute parole engage celui qui prononce cette parole. Donc, il y a une responsabilité de celui qui parle. On n'a pas le droit de dire n'importe quoi. Une faute de langage est impardonnable. Donc, il y a ce sentiment vraiment très, très fort de responsabilité vis-à-vis de la langue, vis-à-vis de ce qu'on dit. Mais il y a aussi un sentiment très, très fort, et c'est le même, chez Ponge, de responsabilité civique. Vous avez prononcé le mot. Ponge est quelqu'un qui s'est engagé constamment. Donc il s'est engagé en 36, alors qu'il travaille dans le bagne des messageries Hachette. Il s'est engagé auprès de la CGT. Il s'est engagé en 37 auprès du Parti communiste. Il s'est engagé pendant la résistance. Il a fait de la résistance. Ensuite, il a abandonné le Parti communiste progressivement en 1947, parce que c'est l'époque de Jdanov, et il était responsable des pages culturelles du journal communiste Action, et n'avait plus une entière liberté. Donc il a abandonné le Parti communiste, mais il a toujours pris des positions politiques. Ensuite, il est devenu gaulliste. Il a défendu Chirac. Il a appelé à voter Chirac. C'est un homme qui, en tant que citoyen, a des engagements et des engagements. Il y a une évolution évidemment, mais il a des engagements d'une grande fermeté, d'une grande.
Engagement certes, mais Ponge jamais ne sera Aragon, parce que nul acte de résistance chez lui ne saurait être efficace s'il n'est pas déjà questionné au préalable le langage lui-même, les mots par lesquels s'exprime cet engagement. La poésie, ça ne saurait être pour Ponge, je crois que vous l'écrivez quelque part, une sorte de prêt-à-porter. Il faut que cela soit du sur-mesure. Il y a une différence, y compris d'ailleurs pendant la guerre. Sa poésie engagée, car elle existe, ne ressemble en rien à celle, par exemple, d'un Aragon avec la Diane française.
Non, il y a le platane, par exemple, voilà, qui bordera toujours notre avenue française, donc c'est une allusion très, très discrète. Mais par exemple, dans son activité de, dans son activité de journaliste, quand il est à Roanne et qu'il tient la, la, la chronique de Roanne pour le Progrès de Lyon, il va écrire régulièrement toute une série de billets. Et dans ces billets, c'est dans ces billets qu'on peut mesurer peut-être le mieux le sens civique de Pons, parce que ce sont des billets dans lesquels il évoque toutes les difficultés, toutes les souffrances et toutes les difficultés matérielles des gens de l'époque, donc les problèmes de chauffage, les problèmes d'alimentation, les problèmes de manque de livres, etc. Et on sent bien que ces textes qu'il écrit dans la presse sont des textes qui sont destinés à faire pression sur les autorités. Donc il est là, il est vigilant et il rappelle aux autorités quel est leur devoir. Donc là, ce sont des textes un peu en marge de l'œuvre, parce que ce sont des textes, comment dire, plus politiques. Et disons que je crois que la force politique des textes de Pons, d'un texte sur la pluie, par exemple, un texte sur la pluie, c'est apparemment pas un texte politique, la force politique d'un texte de Pons, c'est d'écrire sur la pluie comme il le fait, c'est-à-dire sans considérer la pluie, par exemple, comme un symbole de quelque chose, comme l'expression d'un état d'âme, c'est-à-dire de la considérer, hein, de considérer la pluie en tant qu'elle est la pluie et rien d'autre que la pluie. Donc, c'est d'une grande force parce que c'est une nouveauté. Quand on regarde comment les objets apparaissent dans la littérature,
Ce sont
prétextes à autre chose. Et puis, si on regarde en peinture, bon, Pons, j'admirais beaucoup Chardin, mais Chardin, au XVIIIe siècle, c'est un petit maître, ce n'est pas un grand maître, puisqu'il pratique un genre mineur qui est la nature morte et qui est la scène de genre. Donc, ces peintres vont aussi émerger progressivement. La nature morte va devenir un genre finalement aussi noble que tous les autres genres, parce qu'on va quitter cette espèce de hiérarchie. Mais en littérature, elle est maintenue beaucoup plus longtemps. Et voilà, donc on n'a pas ça par exemple dans la tradition japonaise où la nature, où l'objet a une importance et vous n'êtes pas considéré comme un mauvais poète si vous ne parlez pas de scènes de bataille. Si vous parlez d'asperges, vous êtes considéré comme un bon poète. Il n'y a pas de hiérarchie des genres.
Alors là, on ne va pas écouter l'asperge, mais en revanche, nous allons écouter l'abricot.
La couleur abricot, qui d'abord nous contacte, après s'être massée en abondance heureuse et bouclée dans la forme du fruit, s'y trouve par miracle en tout point de la pulpe aussi forte que la saveur soutenue. Si ce n'est donc jamais qu'une chose petite, ronde, sous la portée presque sans pédoncule, durant au tympanon pendant plusieurs mesures dans la gamme des orangers, toutefois, il s'agit d'une note insistante, majeure. Mais cette lune, dans son halo, ne s'entend qu'un mot couvert, à feu doux, et comme sous l'effet de la pédale de feutre. Ses rayons les plus vifs sont dardés vers son centre. Son rince forçando lui est intérieur. Nulle autre division n'y est d'ailleurs préparée qu'en deux. C'est un cul d'ange à la renverse, ou d'enfant Jésus sur la nappe. Et le branc vénitien qui s'amasse en son centre s'y montre sous le doigt dans la fente ébauchée. On voit déjà par là ce qui, l'éloignant de l'orange, le rapprocherait de l'amande verte, par exemple. Mais le feutre dont je parlais ne dissimule ici aucun bâti de bois blanc, aucune déception, aucun leurre, aucun échafaudage pour le studio. Non. Sous un tégument des plus fins, moins qu'une peau de pêche, une buée, un rien de matité duveteuse, et qui n'a nul besoin d'être ôté, car ce n'est que le simple retournement par pudeur, de la dernière tunique. Nous mordons ici en pleine réalité, accueillante et fraîche. Pour les dimensions, une sorte de prune, en somme, mais d'une toute autre farine, et qui, loin de se fondre en liquide bientôt, tournerait plutôt à la confiture. Oui, il en est comme de 2 cuillerées de confiture à coller. Et voici donc la palourde des vergers, par quoi nous est confiée aussitôt, au lieu de l'humeur de la mer, celle de la terre ferme et de l'espace des oiseaux, dans une région d'ailleurs favorisée par le soleil. Son climat, moins marmoréen, moins glacial que celui de la poire, rappellerait plutôt celui de la tuile ronde, méditerranéenne ou chinoise. Voici, n'en doutons pas, un fruit pour la main droite, fait pour être porté à la bouche aussitôt. On n'en ferait qu'une bouchée. N'était ce noyau fort, dur et relativement important qu'il y a, si bien qu'on en fait plutôt 2, et au maximum 4. C'est alors en effet qu'il vient à nos lèvres, ce noyau, d'un merveilleux blond au beurre très foncé. Comme un soleil, vu sous l'éclipse à travers un verre fumé, il jette feu et flamme. Oui, souvent adorné encore d'oripeaux de pulpe, un vrai soleil mort de Venise, d'un caractère fort renfermé, sombre et jaloux. Pour ce qu'il porte avec colère, contre les risques d'avorter, et fronçant un sourcil dur, voudrait enfouir au sol la responsabilité entière de l'arbre qui fleurit rose au printemps.
Merci. On a pu voir dans ce texte, entendre dans ce texte, comment pour Ponge, il n'est pas question de reproduire l'objet simplement. On n'est pas dans une esthétique, dans une problématique de la représentation. Il est plutôt question pour lui, et vous le dites, vous l'écrivez dans La Musicien, de produire un nouvel objet en insistant sur la matérialité du texte. Mais alors peut-être pourrions-nous préciser cela en nous penchant un petit peu dans la fabrique du texte. Et ainsi, ce qui est audible dans l'abricot, mais c'est aussi le cas pour de nombreux textes, c'est que Ponge a un usage vraiment très particulier de la métaphore, acte poétique par excellence, et du recours aux images. Un rapport qui est plein de défiance, de méfiance, car la défiance qu'il a vis-à-vis du langage vaut évidemment pour la métaphore. Alors j'aimerais, parce que vous avez écrit de très belles pages dessus, vous entendre parler un petit peu de ce rapport compliqué à la métaphore et de l'usage qu'il en fait.
Je crois que, si vous voulez, après les accès surréalistes dans la pratique de l'image, toute une génération de poètes ont tenu l'image pour suspecte. Si on prend Jean Follin, par exemple, on dit que c'est un poète qui n'utilise pas la métaphore ni la comparaison. Alors, pour Ponge, ce qui est particulier, c'est que ce qui l'intéresse dans l'image, c'est non pas ce qui est semblable, mais c'est ce qui est dissemblable. C'est-à-dire que, par exemple, s'il compare l'huître et le galet, le premier mouvement, c'est le mouvement de comparaison, d'assimilation. On va du semblable au semblable. L'huître ressemble à un galet. Mais tout de suite, vous avez le « mais » qui intervient et qui va souligner toutes les différences qu'il y a entre le galet et l'huître. Le galet ressemble bien... l'huître ressemble bien à un galet, mais le galet, c'est le galet, et l'huître, c'est l'huître. Ils sont bien différents. Donc, ce qu'il cherche... c'est ce qu'il appelle la qualité différentielle. C'est en quoi les objets sont différents. Et sa pratique de l'image consiste à la tenir en laisse. Et j'avais dit bon que c'était traverser l'image. Il passe par l'image. Il passe par les figures et puis ensuite il défait cette figure. C'est son mouvement constant. Ça, c'est un, C'est un aspect. L'autre aspect, ça consiste, par exemple, dans les bricots, on le voit bien, à multiplier les images, si bien que ces images se parasitent les unes les autres et s'annulent et se tempèrent les unes les autres. Donc c'est un des procédés rhétoriques, si l'on veut, pour atténuer la puissance de l'image. Si on regarde l'image surréaliste, par exemple, l'image surréaliste est une image qui ne va jamais faire la différence. Hein. Bon, ce qui me vient en tête, c'est une banalité, évidemment, c'est la lune est bleue comme une orange. Et Éluard ajoute tout de suite en dessous, les mots ne mentent pas. Hein. Donc je dis la vérité et j'affirme, la lune est bleue comme une orange. Et on reste dans l'assimilation de deux objets et on affirme cette assimilation. Chez Ponge, on n'a pas cette assimilation. Il dit par exemple, c'est beau de comparer un rosier à un coq de combat, c'est une image magnifique. Les ergots d'acier du coq font penser aux épines du rosier, les pétales de rose, aux gouttes de sang qui volettent, le rosier lui-même et le combat de coq présentent donc des analogies. Mais le but, ce n'est pas d'avoir trouvé cette belle image, c'est de montrer en quoi le rosier et le combat de coq sont des réalités différentes. Donc c'est le réel qui l'intéresse et l'image n'est qu'un moyen d'accéder à ce réel parmi beaucoup d'autres.
Alors si Ponge se méfie des images faciles, de tout ce qu'il appelle le magma, je crois, des analogies, des images et des pièges de la métaphore, il est au contraire parallèlement à la recherche de formules et il a une quête du proverbe, d'une langue qui se rapprocherait du proverbe. D'où ça lui vient ça? Qu'est-ce qui met derrière ça et...
Le proverbe, c'est il y a plusieurs modèles de texte pour Ponge dans les genres brefs. Hein. Il y a donc le proverbe, il y a la définition du dictionnaire, et l'autre, je l'oublie maintenant, mais peu importe. Il y a l'épitaphe, hein, l'inscription, hein, la plaque ici Nakimalherbe en 1455. Hein. Ce sont des formules qui semblent parfaites à Ponge dans la mesure où elles sont vraiment très économes de mots. Donc ce sont des modèles de textes. Mais c'est une question complexe parce que Ponge est quelqu'un qui c'est vrai, recherche la formule, mais une fois que cette formule est trouvée, il faut surtout ne pas rester bloqué. Donc il faut continuer à avancer. Si on arrive à la formule définitive, alors on ne peut plus écrire. Et ce qui est singulier chez Ponge, c'est une alternance d'un très très long travail d'approximation et de trouvailles qu'il va falloir franchir, hein, malgré tout, pour aller au-delà. Il faut aller au-delà du proverbe, il faut aller au-delà de la trouvaille, il faut aller au-delà du poème, il faut aller au-delà de l'image. Je pense qu'il y a tout ce travail là chez Ponge. La question du proverbe est évidemment très très liée à à son amitié avec Jean Paulhan, hein, et avec le livre de Paulhan sur les proverbes malgaches. Ponge a été très très frappé par l'autorité, hein, du proverbe. Paulhan raconte que dans les palabres malgaches, celui qui place un proverbe au bon moment est celui qui emporte le marché. Donc c'est le modèle pour Ponge d'une parole efficace, hein, d'une parole qui a une action pratique et qui va avoir des effets. Donc il y a cette ambition d'arriver à une parole qui soit un acte. Hein. Dire c'est faire, hein, dit-il. Alors, il y a une formule qui est très révélatrice de la façon dont il conçoit les textes qu'on trouve dans Pour un Malherbe. Ces quatre verbes à l'infinitif, c'est révéler, élaborer, affiner, abolir. Révéler, élaborer, je fais le professeur. Révéler, élaborer, affiner, abolir. Révéler, c'est-à-dire trouver quelque chose de nouveau, ensuite raffiner. Mais le moment intéressant pour que le cycle puisse reprendre, puisque c'est un cycle à quatre temps, c'est aussi le moment de l'abolition. Même dans l'abricot, vous voyez que dans l'abricot, vous avez ce mouvement également. Vous avez l'abricot qu'on mange, qui est un moment de destruction, et puis l'abricot qui va naître de ce noyau. Et le noyau est important pour Ponge parce que c'est celui qui va permettre la création d'un nouvel arbre et de nouveaux abricots. Le devoir de l'abricotier, c'est de produire d'autres abricotiers. Donc l'abricot présente à la fois deux aspects. Une sensualité, c'est on le mange, on le goûte, on est gourmand de l'abricot et du texte. Hein, quand Ponge dit ici, l'on entre... je ne sais plus à quel endroit du texte, je ne vais pas le retrouver. Bon, mais peu importe. Quand on se dit ici, nous entrons en pleine réalité accueillante et fraîche, cet ici désigne à la fois l'abricot que l'on mange et le texte que le lecteur savoure. Donc il y a une sensualité de ce texte avec une sensorialité, tous les sens sont convoqués, une gourmandise, mais il y a aussi une âpreté dans ce texte, et l'âpreté c'est la volonté du noyau de durer, de s'enfouir au sol et de fructifier par la suite.
Alors ce travail constant sur les mots, sur la langue, prend place au fur et à mesure que du travail de Ponge de plus en plus dans une réflexion plus vaste et qui touche à rien de moins qu'à l'instauration d'une nouvelle rhétorique. Si Ponge prend acte des révolutions poétiques de la fin du XIXe siècle qui ont fait éclater au grand jour l'inanité de l'ancienne rhétorique scolaire, il ne se contente pas pour autant de cette table rase. Parce que tout reste à faire et à écrire en fait en matière de langage. Et tout son effort va consister en la tentative de création d'une rhétorique qui serait enfin adéquate, adaptée à notre temps, et qu'il définit dans Proème comme l'art de résister aux paroles. Alors, le terme de rhétorique pouvant entraîner tout de même aujourd'hui des malentendus, pourriez-vous nous dire ce que Ponge entendait par là ?
Alors, la rhétorique est redevenue bien à la mode aujourd'hui, depuis les années 70, elle a retrouvé une nouvelle vitalité, on le voit dans le système scolaire. La rhétorique, là aussi c'est une réflexion qui est liée à celle de Pollan. Ils ont beaucoup de sujets en commun. Ils ont la peinture, ils ont la rhétorique, ils ont cette question du proverbe qui fait partie de cette rhétorique. Mais l'idée de Ponge, c'est que les peintres, notamment Manet, puis les cubistes, sont en avance sur les littérateurs, qu'ils ont quitté la rhétorique du système de la perspective, qu'ils ont renouvelé leur façon de figurer l'espace, et l'écrivain doit aussi renouveler les façons dont on se figure le monde, parce que les anciennes figures ne permettent plus de rendre compte du monde. Alors, ça explique, par exemple, que que Ponge utilise un certain nombre de termes nouveaux ou anciens, mais qu'il renouvelle pour définir cette rhétorique. Hein, lorsqu'il réhabilite, par exemple, le mot proème dans un sens qui est le sien, il va chercher le mot sapate dans le dictionnaire pour désigner un certain type de texte resserré, d'apparence banale, mais qui contiennent quelque chose de précieux à l'intérieur. Il utilise des dénominations comme fables logiques pour désigner de nouveaux genres de textes. Donc, il éprouve le besoin de... Il parle de l'objet, de l'objet, etc. Il éprouve le besoin de développer tout un vocabulaire nouveau qui correspond aux réalités nouvelles qui sont en train d'émerger dans son œuvre et qu'il voit émerger dans son œuvre. Il a besoin de mots nouveaux pour des choses nouvelles. Et donc la nouvelle rhétorique est en marche.
Alors tout à l'heure, Hélène va nous lire le Yé, mais juste avant que la lecture, juste avant que vous nous disiez aussi pourquoi vous teniez à ce que ce texte soit lu, et comme le temps passe, et que je vois beaucoup de poètes et d'amateurs de poésie dans l'assistance, j'aimerais maintenant vous donner la parole, si vous avez des remarques, des choses à dire sur Ponge, des questions à poser à Gérard Farras. Il faut que quelqu'un ait le courage de la première question.
Le monde est muet.
Oui. Et notre seule patrie. Ah oui, bien sûr.
Alors peut-être Madame Armande Ponge, histoire de donner le courage à tout le monde ensuite d'embrayer.
Oui, mais que dire? Ouais. Je ne veux pas épiloguer, me placer comme vous deux sur le même plan. Je peux dire un mot peut-être sur les origines. C'est-à-dire que, oui, mon père est né à Montpellier, certes, mais pourquoi? Alors pourquoi? Parce que mon grand-père, Armand Ponge, avait deux parents, Nîmois. Non, Armand et Juliette étaient Nîmois. Pourquoi mon père est né à Montpellier? Ça, c'est une question. Il est facile d'y répondre. Mon grand-père était employé de banque à Nîmes, et pour aider sa mère, veuve à 30 ans, lui-même en avait 7 quand il a perdu son père, sa mère donnait des leçons de piano à Nîmes, et donc après son service militaire, il a jugé nécessaire d'aider sa mère. Alors il est devenu employé de banque à Nîmes, puis nommé sous-directeur du comptoir national d'escompte à Montpellier. Mon grand-père s'est marié à 28 ans avec Juliette Sorel à Nîmes, et ils ont habité au 3 de la place de la préfecture, aujourd'hui place Chabanneau, au-dessus d'un logement de fonction, au-dessus du comptoir national d'escompte. Là est né leur premier enfant, un fils, Francis. Voilà. Mais très vite, au bout d'un mois, mon grand-père a été nommé alors directeur du même comptoir national d'escompte, mais à Nîmes. Alors déménagement à Nîmes pour un an seulement. Ensuite, Avignon, où là, alors, ce fut un peu plus long, toujours pour les mêmes raisons, mon grand-père étant toujours directeur de ce comptoir national d'escompte, l'ancêtre de la BNP. Avant d'en partir et d'aller dans les brumes et la pluie de Caen. Mais il y avait la maison Malherbe. Et il passait chaque matin, ou plusieurs fois par jour peut-être, devant cette maison où il pouvait lire cette inscription, en effet, dont Gérard Farras a fait allusion tout à l'heure. Et c'est vrai que les inscriptions ont joué une très grande place, avaient une grande importance, toujours. et évidemment les inscriptions latines, mais enfin l'inscription ici, Naki, Malherbe, voilà. Il fréquentait le lycée Malherbe, le club de football Malherbe, à Caen.
Football, voilà, club, oui. Football club Malherbe.
Pardon ?
FC Malherbe.
FC Malherbe, voilà. Un grand goût pour le football, mon père. Mon père aurait probablement aimé un fils. Et malheureusement, il a eu une fille qu'il traînait au Parc des Princes et j'ai été très jeune, comme ça, habituée à voir des matchs de football. Bon, là, je fais une digression pour venir à Montpellier, mais j'ai dit un mot de son goût pour, bien sûr, le climat, la Méditerranée, la lumière de cette région. Et il a beaucoup fréquenté le Gros du Roi, qui n'est pas bien loin d'ici, n'est-ce pas ? C'est une manière de revenir un petit peu parmi vous. Et au Gros du Roi, oui, il a fait de nombreux séjours. Et il aimait beaucoup les habitants du Gros. Il paraît qu'il eût été, s'il avait vécu 3 ans à leur côté, dont il était tombé amoureux. Il a écrit cela à Pollan. Je suis tombé amoureux des gens d'ici. Si j'y restais 3 ans, je deviendrais leur mère, à ce qu'ils disent. Voilà. Et pour la Méditerranée, il y a aussi une phrase. Pour ceux qui sont nés non loin de la Méditerranée, pas de doute, la beauté existe. Voilà.
Merci. Alors, est-ce que le courage est venu ? Oui, une question.
C'est toi qui réponds. Hein.
Oui, vous avez dit donc qu'il n'est pas très resté longtemps à Montpellier, vous avez parlé d'attachement, mais au début vous avez parlé d'un esprit montpelliérain, si je ne sais pas si c'est exactement le mot. Comment on peut justement qualifier ça alors qu'il n'y a pas vraiment été ? Non, et parce que c'est un innovateur, c'est le mot qui est...
C'était plutôt une boutade liée au fait qu'effectivement il a été soumis... dès le début de sa vie à des influences très diverses, à des cultures très, très variées, ce qui est exactement finalement le cas de notre ville. Mais c'était plus de l'ordre de la boutade que de l'affirmation ayant une quelconque rigueur scientifique.
Merci.
Mais on va lire le yé. Pourquoi avoir demandé l'œillet, Gérard Farras? Vous avez insisté pour que ce texte soit lu ce soir.
Bon, l'œillet, parce que j'aime bien les textes de Ponce sur les fleurs. Et l'œillet, parce qu'il est exemplaire du travail de Ponce qu'il effectue dans la rage de l'expression. On a souvent tendance à réduire Ponce au poète du parti pris des choses, au texte bouclé. Or, les textes de la rage de l'expression, comme l'œillet, sont des textes qui se présentent comme des journaux poétiques, où les différentes séquences sont datées, et où on voit l'écrivain au travail. On a un texte donc assez hétérogène, où on a parfois des extraits de lettres, de correspondances à propos du texte. On a des recherches dans le dictionnaire. On a des réflexions sur ce que Ponge est en train d'écrire. On a des essais de mise en vers. On a des proses. On a comme ça toute une série de textes qui montrent que le résultat, quand le résultat arrive, parce que parfois, par exemple, comme dans l'œillet, c'est intéressant, Ponce dit, eh bien non, finalement, je n'écrirai pas cet œillet, je peux le faire maintenant, j'ai trouvé comment on peut le faire. Mais je ne l'écrirai pas. Et donc, on a 20 pages de préparation de l'œillet. Il faut bien comprendre que l'œillet, c'est la totalité de ces 20 pages, et non pas le texte final. Hein. Donc, il y a une remise en question par Ponce du texte achevé, du texte bouclé. Et on peut voir une annonce de cela dès le parti pris des choses, et en particulier quand on lit le gymnaste où Ponge présente une sorte de sportif de musical virtuose. C'est le poète lyrique qu'il représente, hein. Ce poète lyrique veut évidemment monter au ciel et il ne fait que se casser la figure par terre comme tous ceux qui veulent avoir des ailes. Et ce poète c'est aussi une représentation de Ponce qui je crois en tout cas qui commence à se lasser de savoir faire des textes bien bouclés, hein. Voilà, je sais faire maintenant, j'ai fait le parti pris des choses, je vais pas faire ça toute ma vie, il faut que je passe à autre chose. Et alors le texte va se décaler, il va montrer de plus en plus la fabrique du texte, hein. Et ça c'est une évolution étonnante, puisque Ponge avec la figue va nous livrer au public la totalité de ces brouillons, hein, dans comment une figue de parole et pourquoi. Et c'est le premier écrivain à l'avoir fait. On connaît évidemment les brouillons de quantité d'écrivains, mais c'est le premier écrivain à avoir décidé de montrer lui-même ses brouillons, à nous faire entrer dans sa fabrique, à nous montrer comment un texte se faisait, qui ne se faisait pas par miracle comme ça, mais qui était le résultat d'un travail mot à mot, d'un travail patient. Donc voilà pourquoi j'ai voulu qu'on lise l'œillet, parce qu'on voit bien dans l'œillet le travail de Ponge, je crois. C'est un texte facile à lire.
Oui. Relever le défi des choses au langage. Par exemple, ces œillets défient le langage. Je n'aurai de cesse, avant d'avoir assemblé quelques mots à la lecture ou l'audition, desquels l'on doive s'écrier nécessairement, c'est de quelque chose comme un œillet qu'il s'agit. Est-ce la poésie ? Je n'en sais rien, et peu importe. Pour moi, c'est un besoin, un engagement, une colère. Une affaire d'amour propre et voilà tout. Je ne me prétends pas poète. Je crois ma vision fort commune. Étant donné une chose, la plus ordinaire soit-elle, il me semble qu'elle présente toujours quelques qualités vraiment particulières sur lesquelles, si elles étaient clairement et simplement exprimées, il y aurait opinion unanime et constante. Ce sont celles que je cherche à dégager. Quel intérêt à les dégager ? Faire gagner à l'esprit humain ces qualités dont il est capable et que seule sa routine l'empêche de s'approprier. Quelles disciplines sont nécessaires au succès de cette entreprise ? Celle de l'esprit scientifique sans doute, mais surtout beaucoup d'art. Et c'est pourquoi je pense qu'un jour une telle recherche pourra aussi légitimement être appelée poésie. L'on apercevra par les exemples qui suivent quel important déblai cela suppose ou implique. À quels outils, à quels procédés, à quelles rubriques l'on doit ou l'on peut faire appel. Au dictionnaire, à l'encyclopédie, à l'imagination, au rêve, au télescope, au microscope, au debout de la lorgnette, au verre de presbyte et de myope, au calembour, à la rime, à la contemplation, à l'oubli, à la volubilité, au silence, au sommeil, etc. On apercevra aussi quels écueils il faut éviter, quels autres il faut affronter, quelle navigation, quelle bordée et quel naufrage, quel changement de point de vue. Il est fort possible que je ne possède pas les qualités requises pour mener à bien une telle entreprise, en aucun cas. D'autres viendront qui utiliseront mieux que moi les procédés que j'indique. Ce seront les héros de l'esprit de demain. Quoi de particulier, en somme, dans le naïf programme exposé solennellement ci-dessus ? Sans doute seulement ceci, le point suivant. Où je choisis comme sujet non des sentiments ou des aventures humaines, mais des objets les plus indifférents possibles ? Où il m'apparaît instinctivement que la garantie de la nécessité d'expression se trouve dans le mutisme habituel de l'objet ? À la fois garantie de la nécessité d'expression, et garantie d'opposition à la langue, aux expressions communes, évidence, muette, opposable.
Merci. Alors, que souhaitez-vous nous dire? Peut-être que le... Encore une fois, on voit bien que le texte n'est pas, contrairement à ce qu'aurait pu laisser penser le parti pris des choses, désormais un bloc d'obscurité qui serait tombé comme ça du ciel, parfait, un aérolithe, mais que le texte est avant tout, et c'est en ça qu'il est vraiment extrêmement novateur, contemporain, très, finalement très très en avance sur la littérature de son temps. Le texte est avant tout un processus, un procès, et aussi par là même une mise en procès de la langue et du langage, tout cela à la fois. En plus, c'est un texte bourré d'humour, extrêmement, parce que finalement on le souligne assez peu dans l'œuvre de Francis Ponge, et qui marque assez bien à la fois la grande modestie de Ponge et en même temps son invraisemblable, cette extraordinaire ambition.
Oui, il y a un humour de Ponge. Je ne sais pas exactement comment situer cet humour, mais bon, il y a des effets, par exemple, d'humour qui tiennent à la disproportion entre la beauté du langage, la densité du langage et l'insignifiance de l'objet évoqué. Mais il y a aussi tout le jeu de mots, le calembour. Les chèvres sont belles, mais elles sont aussi butées, donc elles sont belles et butées. Et c'est ce qui plaît aux enfants. Je crois que Ponge était très content, se réjouissait beaucoup, parce que les enfants appréciaient tout cet aspect de son œuvre. Dès qu'il y a ce travail sur la langue, on est sûr de pouvoir appâter les enfants, parce que c'est un travail qui crée du plaisir, hein, qui est ludique, qui est proche du jeu. Donc oui, il y a cet humour. Ex-martyr du langage, dit Ponge, j'ai le droit à faire un peu d'humour de temps en temps. Hein. Donc vous parlez très bien de Ponge, et je crois que je vais vous laisser en parler.
Bien, alors avant de nous séparer, y a-t-il cette fois-ci des questions? Non, alors là, donc la parole sera restée au poète. On aura fini sur l'œillet. Simplement, je voudrais remercier tous. Je remercie Gérard Farras, je remercie Hélène Grange pour ses lectures. Vous trouverez une petite plaquette sur laquelle vous aurez les différents événements qui sont prévus, puisque cela continue jusqu'à dimanche. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont contribué au succès et à la réussite de cet événement. Et puis, simplement une petite annonce. Demain, c'est le lancement de l'Agora des Savoirs à 20h30 au Centre Rabelais. Donc, un nouveau cycle de conférences lancé par la ville de Montpellier. Notre invité demain pour la leçon inaugurale sera le journaliste Jean-Claude Guibaud. Il viendra traiter de cette angoissante et prometteuse question: quel monde préparons-nous ? Merci à toutes et à tous. Merci Gérard Farras. Merci Armand Ponge. Bonne soirée.